Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un dialogue national à venir en Tunisie, initiative du chef de l'État. 4 organisations y participeront, dont la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Son président, Jamel M. Salem, sera l'un de nos invités. La Turquie prépare le retour d'un million de réfugiés syriens, cela sur la base du volontariat, selon le président turc. Plus de 250 candidats à l'exil ont traversé la Manche dimanche dernier pour se rendre au Royaume-Uni. Ils étaient à bord de 7 embarcations de fortune. Le pape François se dit prêt à se rendre à Moscou pour voir le président russe et tenter d'arrêter les combats en Ukraine. Un soldat irakien tué, 2 blessés dans le nord de l'Irak. Bilan de combat entre l'armée et des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes du PKK dans la région du Sinjar. Le deuxième jour, ce mardi, de la fête de l'Aïd el-Fitr, entretien dans votre journal avec Aboubikrine Diop, porte-parole de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique des Comores et des Antilles, et recteur de l'Institut Al-Razali à Marseille. Nous écouterons aussi le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui. Le congé de paternité passe de 3 à 15 jours au Maroc, une mesure dans le cadre d'un accord social signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat marocain. 4 organisations participeront au dialogue national annoncé par le président tunisien. La centrale syndicale UGTT, l'organisation patronale Utica, l'Ordre national des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Le président tunisien avait lancé une consultation populaire en ligne entre janvier et mars dernier. Cette consultation doit servir de base à un référendum pour amender la constitution avant des élections législatives prévues en décembre. Entretien avec le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, Jamel M. Salem.
La situation précaire, donc la crise importante, c'est la crise de la situation socio-économique du peuple tunisien qui vit par volant une dégradation continue de son pouvoir d'achat avec un nombre très important de chômeurs, de personnes qui n'ont pas de travail, que ce soit des diplômés ou des non-diplômés supérieurs, avec bien sûr le décrochage scolaire. Chaque année, on a environ 100 000 élèves qui décrochent. Avec les conséquences de cette situation, dont les conséquences, c'est la criminalité qui augmente, des jeunes veulent quitter la Tunisie, il y a des tentatives pratiquement continues d'arriver à la rive nord de la Méditerranée. Bien sûr, il y a la crise politique. La crise politique qui a commencé depuis les élections de 2019. Nous devons trouver une solution. Les divergences sont importantes. Point de vue sortir de cette crise politique. Bien sûr, il y a les échéances attendues le 25 juillet et le 17 décembre. 25 juillet pour un référendum et le 25 décembre pour les élections. Bon, pour le référendum, le président propose que les résultats de la consultation nationale vont être à la page, donc dans l'ordre du jour. Pour les élections, on est en train de discuter quel est le mode de scrutin qui est valable pour la Tunisie, qui peut assurer une stabilité politique du pays. Voilà, j'espère que ce dialogue va commencer incessamment et qu'il peut avoir des résultats palpables et réalisables sur la réalité du pays.
Le président tunisien qui avait lancé une consultation populaire en ligne, c'était entre janvier et mars dernier, oui. C'est cette consultation qui doit justement servir de base à un référendum pour amender la constitution, cela avant les législatives prévues en décembre prochain. Quel bilan faites-vous de cette consultation populaire en ligne?
En fait, la consultation, il y a environ un peu plus que 500 000 participants dans la consultation. C'est un nombre qui n'est pas important par rapport aux majeurs tunisiens, donc aux électeurs tunisiens qui avoisinent les 8 millions de personnes. Le résultat, il a proposé que le résultat de la consultation va être des sujets de dialogue et de débat. Il n'y a pas que ça pour nous. Moi, pour la Ligue, il n'y a pas que le résultat de la consultation. C'est important de discuter le mode de scrutin, le régime politique, la nature du régime politique et tout ça. Mais la situation socio-économique est importante. Il faut sortir avec un programme réalisable à l'instant, à court terme, et un programme à moyen terme pour sortir du goulot, de la situation financière et économique. Bien sûr, il y a les autres problèmes que la société vit, comme le décrochage scolaire, comme l'immigration clandestine, comme l'augmentation des prix de la Tunisie, de l'État tunisien. Et j'espère que le dialogue va trouver des solutions du moins réalisables réellement.
Sur le volet politique, la réforme de l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, ce décret de réforme du président de la République, les membres de l'ISI qui ne sont plus nommés par le Parlement mais aujourd'hui par l'exécutif, comment avez-vous accueilli cette réforme vivement critiquée par le président de l'ISI, Nabil Bafoun?
Le 25 juillet, nous avons émis notre caution et nous avons demandé que cette situation d'exception ne doit pas durer longtemps et que le fait de rassembler tous les pouvoirs exécutifs et législatifs entre les mains du président, ça risque de faire une déviation vers la dictature et un despotisme. Bien sûr, une instance constitutionnelle, comme je dis, c'est une instance qui a été le produit d'un rapport de force dans l'Assemblée du peuple, des représentants du peuple, et que ce qui nous gêne, c'est que le décret présidentiel parle de la mission de la ISI, de la nouvelle ISI, c'est 4 années. Or, l'échéance immédiate des élections, c'est le 17 décembre. Et ça gêne un peu, parce que en fait, les élections qui arrivent par la suite, ça va être des gens qui ont été nommés par le président et parmi les anciens de l'ISI, parmi les magistrats.
Vous présidez la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de la situation des droits de l'homme et de son évolution, et notamment depuis juillet dernier, depuis que le président de la République s'est accaparé l'ensemble des pouvoirs?
Nous assurons un monitoring continu pratiquement chaque jour sur les violations des droits et des libertés fondamentales et des libertés privées. Et nous avons bien sûr constitué des rapports et nous avons demandé au mois de septembre une rencontre avec la présidence au cours de laquelle nous avons relaté tous les dépassements, surtout le fait de passer des personnes civiles devant les tribunaux administratifs, les violences à l'égard de certains corps professionnels, notamment les journalistes. Tous ces problèmes-là, nous les avons relatés. Nous continuons à assurer à monitoring l'état de liberté, liberté fondamentale et liberté de privée aussi, individuelle. Et la situation, bon, en gros, elle n'est pas désastreuse par rapport à quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui a capable tous les pouvoirs en une seule main, mais nous continuons à faire notre mission. C'est-à-dire publier des communiqués, établir des rapports, etc.
Vous faites preuve de vigilance.
Oui, nous devons être très vigilants, surtout dans la période qui va venir.
Le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, Jamel M. Salem. La Turquie prépare le retour d'un million de réfugiés syriens, cela sur la base du volontariat, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'exprimait dans un message vidéo adressé à la cérémonie de remise des clés de milliers de maisonnettes destinées à des réfugiés de retour dans le nord-est de la Syrie. La Turquie qui accueille sur son sol plus de 3,6 millions de réfugiés syriens. Des combats en Irak entre l'armée et des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes turcs du PKK. Des combats à Sinjar dans le nord du pays qui ont fait un mort, un soldat irakien et 2 blessés. Les unités de résistance du Sinjar accusent l'armée de vouloir prendre le contrôle de leur région et de les en chasser. Le Hamas a revendiqué une attaque qui a coûté la vie vendredi à un garde israélien d'une colonie en Cisjordanie occupée. Une revendication 2 jours après que la branche armée du Fatah a affirmé sa responsabilité. Plus de 250 candidats à l'exil ont traversé la Manche dimanche dernier pour se rendre au Royaume-Uni. Ils étaient à bord de 7 embarcations de fortune. C'est la première fois en 11 jours que le gouvernement britannique fait état d'embarcations dans la Manche. La fin du mois d'avril a en effet été marquée par des vents violents et une mer agitée. Le nombre de traversées clandestines, multiplié par 3 en 2021, pourrait atteindre un nouveau record cette année. Le pape François se dit prêt à se rendre à Moscou pour voir le président russe Vladimir Poutine et tenter d'arrêter les combats en Ukraine. Ukraine. Le souverain pontife qui a annoncé avoir appelé au téléphone le président ukrainien le premier jour de la guerre. Le pape a exclu par ailleurs de se rendre pour le moment à Kiev en dépit des invitations des Ukrainiens. Le deuxième jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, ce mardi, et l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan, entretien avec le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui.
Cette fête de qui clôture un mois de jeûne des dévotions est une fête très importante et bien sûr à cette occasion j'adresse mes vœux les plus chaleureux à l'ensemble des musulmans de France, leur souhaitant bonheur et prospérité, et au-delà de nos concitoyens, nos confessions musulmanes, à l'ensemble de nos concitoyens, en leur espérant cette année une année de bonheur et de prospérité. La fête de rupture du jeûne, Eid al-Fitr comme on dit en arabe, est un moment très important. D'abord, il permet aux familles musulmanes de se retrouver entre elles, de dissiper les malentendus, parce qu'il est de tradition que lorsqu'il y a un différend entre un croyant, entre deux familles, que ce jour-là de l'Aïd, il leur est interdit de rester dans ce différend et il faut le régler et se réconcilier. C'est aussi le moment de partage avec les familles nécessiteuses, puisque la tradition veut que la récompense du jeûne est suspendue entre le ciel et la terre jusqu'à ce que la famille s'acquitte de son devoir envers les pauvres en donnant l'équivalent de 7 euros par membre de famille. Une famille qui est composée de 5 personnes donnerait 35 euros à des pauvres, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur condition. Et j'attire l'attention des responsables de mosquées, notamment ceux qui collectent la zakat al-fitr ou l'aumône de rupture, qu'ils sachent qu'elle est destinée exclusivement aux pauvres. En d'autres termes, l'utiliser pour les besoins de la mosquée, pour les charges ou les frais de la mosquée, n'est pas autorisé religieusement, parce que c'est un dépôt. Lorsque les gens donnent à une mosquée cette zakat al-fitr, la mosquée elle a l'obligation de la distribuer aux pauvres et ne pas l'utiliser dans la mosquée elle-même. C'est important de le rappeler parce que cette aumône, elle est exclusivement dédiée aux pauvres.
Dans un contexte de guerre en Europe, vous pensez notamment aux victimes aujourd'hui?
Tout à fait. Je pense que la particularité de la joie pendant cette fête, c'est que c'est une joie solidaire. Elle n'a pas d'aspect festif, grandiose, comme pourrait avoir comme imagination. C'est plus un moment de partage, un moment de, comme je disais, de se réconcilier avec ceux avec qui on avait des différends. Et c'est aussi le moment de se rappeler la souffrance des pauvres. Et aujourd'hui, ceux qui sont en situation de guerre, les réfugiés qui fuient la guerre, cela doit être dans notre centre d'attention. Et cette aumône de rupture de jeûne, elle peut être donnée aux réfugiés et à toutes les personnes nécessiteuses. La plupart des mosquées ont organisé pendant tout le mois de Ramadan des distributions de repas. La mosquée d'Avignon, dont que je préside, a distribué plus de 8000 repas pendant ce mois béni, plus de 500 colis alimentaires destinés notamment aux détenus, mais aussi aux familles de réfugiés. Je pense que ce mois a été une bénédiction pour toutes les personnes qui étaient en situation de besoin.
Le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui, en ce deuxième jour de la fête de l'Aïd, ce mardi, entretient à présent avec Aboubikrine Diop, porte-parole de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, et recteur de l'Institut Al-Razali à Marseille.
Nous sortons d'un moment intense dans ce que sont les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans. Donc le Ramadan fait partie de ces piliers de l'islam. Donc c'est un moment à la fois de pardon, c'est un moment de dévotion, c'est un moment d'absolution et de piété. Et donc nous formulons des vœux de paix, mais à la fois de paix intérieure, parce que beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de personnes dans le monde souffrent de façon intérieure, inquiets, angoissés par à la fois leur vie personnelle, par à la fois la vie familiale. Et donc nous souhaitons une paix intérieure pour chacun et chacune d'entre nous, mais en même temps aussi une paix pour une harmonie sociale beaucoup plus raffermie, une paix partout dans le monde aussi, où les tensions, les guerres, les violences s'expriment. Nous souhaitons en tout cas que les gens reviennent dans ce qui fait l'essence de la vie, c'est-à-dire l'amour et la paix. Et nous le souhaitons en Europe, nous le souhaitons en Afrique, nous le souhaitons au Moyen-Orient, nous le souhaitons dans toutes les parties du monde où cette tension est perceptible, parce que des gens en souffrent dans leur chair, dans leur vie, et nous tendons les mains à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que les valeurs de l'éthique l'emportent contre celles de la violence et de la barbarie. C'est le vœu que nous formulons pour le monde, pour le monde musulman, mais pour le monde entier, pour le monde entier, pour tous les êtres humains. Nous souhaitons que cessent ces violences et que nous puissions retrouver ce qui est l'essence de la vie, ce qui est autour quand même de valeurs simples, de solidarité, d'amour, et pour ceux qui sont croyants, de piété raffirmée envers le Dieu absolu.
Abou Bikrine Diop, porte-parole de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, recteur de l'Institut Al-Razali à Marseille. Le congé de paternité passe de 3 à 15 jours au Maroc, une mesure dans le cadre d'un accord social signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, accord qui prévoit notamment de revaloriser de 10% le salaire minimum. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.